Vous écoutez On lit pour vous.
Déficience visuelle, les premières affiches de films parlantes. Un texte de Clotilde Costil, paru le 30 janvier 2025 dans handicap.fr. Du jamais vu au cinéma. La société Zeugma Concept vient de lancer ses premières affiches parlantes. L'objectif, sonoriser les visuels promotionnels des films afin qu'ils soient accessibles aux personnes déficientes visuelles. Citation : Les personnes aveugles ou malvoyantes passent sans cesse devant les affiches de cinéma, mais sans le savoir. Fin de citation. C'est en parlant de ce constat que Raphaëlle Valenti, comédienne voix, fondatrice de Zeugma Concept, spécialisée dans l'audiodescription, a eu l'idée des affiches parlantes. Projetées à l'entrée des cinémas, sur les célèbres colonnes Maurice à Paris, les affiches de films sont souvent la première porte d'entrée d'une œuvre. Une porte reste fermée pour plus de 2 millions de Français déficients visuels. Un gain d'autonomie. Pour remédier à cette injustice, Raphaëlle Valenti a décidé de vocaliser ses images sur le même principe que l'audiodescription, répondant à 4 objectifs. Plus d'autonomie, d'inclusion sociale et professionnelle, ainsi que la défense de la voix humaine. À l'heure où l'intelligence artificielle démocratise les voix off robotiques, Zeugma Concept milite pour tenir l'IA éloignée de son activité. L'affiche parlante apparaît donc sous forme de piste sonore, de 40 secondes à 1 minute, selon la difficulté de l'image. Description de l'image et de la distribution. Les audiodescripteurs, généralement des comédiens, tous formés à cette méthode dédiée aux personnes déficientes visuelles, participent pour l'instant au projet de façon bénévole. Leur mission ? Décrire l'image en détail, dans une tonalité très narrative, sobre, puis énumérer le nom du réalisateur, des acteurs principaux et dérouler le synopsis. Citation : Le vieux magicien Gandalf, vêtu de blanc, tient son bâton magique et veille sur les autres personnages. Fin de citation. C'est ainsi qu'une voix masculine décrit la mythique affiche du Seigneur des Anneaux, sortie en version originale et illustrée il y a plus de 20 ans. Déclencher une émotion. Citation : Nous souhaitions offrir aux personnes déficientes visuelles une autonomie de choix afin d'accéder à l'émotion que déclenche l'affiche, de débattre ensuite de l'œuvre en société. Fin de citation, complète Raphaëlle Valenti. Le projet s'inscrit également dans une démarche professionnelle inclusive, faisant collaborer des audiodescripteurs voyants et non-voyants sur un même pied d'égalité. Pour l'heure, seul le site de Zeugma Concept propose gratuitement l'accès à une petite dizaine d'affiches parlantes. D'autres sites partenaires suivront. Des négociations sont en cours pour les décliner à l'entrée des cinémas via des tableaux numériques ou sous forme de QR code. C'était « Déficience visuelle, les premières affiches de films parlantes », un texte de Clotilde Costil, paru le 30 janvier 2025 dans handicap.fr.
Victime des coupes, un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 30 janvier 2025 dans la presse. Des personnes handicapées qui perdent des heures de soins ou de services à domicile. D'autres qui ne peuvent pas adapter leur logement, faute de subventions. Les coupes se font sentir partout au Québec, dénoncent des organismes qui défendent leurs droits. Les coupes dans le soutien à domicile se poursuivent, même si le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à Santé Québec de maintenir les services pour des personnes très vulnérables. Des organismes de défense des personnes handicapées dénoncent ces compressions. François Fournier, 62 ans, est victime de ces coupes. Le Rimouskois a besoin de soutien à domicile depuis qu'il a été victime, en 2010, d'un accident qui a brûlé son corps à 80 %. Devenu non-voyant, il n'a pratiquement plus de sensibilité au bout de ses doigts, qui ne se plient plus. « J'ai les mains comme dans des gants trop petits », illustre-t-il. Jusqu'à tout récemment, M. Fournier bénéficiait de 35 heures par semaine de soutien à domicile. Une préposée l'aidait pour sa toilette du matin, le ménage et ses repas. elle l'accompagnait pour de courtes marches et lui massait les mains, brûlées au 3e degré et demi, précise-t-il, 2 fois par jour. François Fournier a récemment appris que les soins qui lui sont offerts dans le cadre du programme « Chèque emploi service » seraient progressivement réduits à 24 heures par semaine d'ici la mi-mars. « Je suis rendu à 31 heures et je commence déjà à manquer de souffle. Je suis bien découragé », commente l'homme qui vit seul. M. Fournier est loin d'être seul dans cette situation, signale la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COPHAN, qui fait partie de la coalition Services en péril. Son directeur général, Paul Lupien, affirme recevoir de nombreuses plaintes à ce sujet. Il cite celle d'un homme dont les services ont récemment été réévalués. Ils sont allés le visiter et ont chronométré le temps de transfert du fauteuil roulant au bol de toilette et du bol de toilette au fauteuil, rapporte-t-il. Ils ont chronométré 15 minutes. C'est ce à quoi l'homme aura droit 4 fois par jour, plutôt que 30 minutes 5 fois par jour. Ils ont juste oublié de calculer le transfert intestinal. Des personnes handicapées et des aînés touchés. Lui-même en fauteuil roulant, Paul Lupien juge déplorable et discriminatoire ces coupes dans des services aux plus vulnérables. Selon lui, la lettre du sous-ministre Daniel Paré envoyée le 6 décembre à la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, n'a rien changé. Dans cette missive, révélée par Radio-Canada et dont la presse a obtenu copie, M. Paré rappelait l'importance du chèque emploi-service. Il y écrivait qu'il importe de s'assurer que les services soient maintenus au sein des différents établissements et que les clientèles admissibles continuent d'être desservies à la hauteur de leurs besoins. Depuis cette demande de M. Paré, aucun changement n'est survenu sur le terrain, affirme Alison Green, présidente de l'Association des soins à domicile du Québec, un regroupement d'entreprises privées. « Il y a des coupures partout, même en date d'hier », indique-t-elle. On parle de gens lourdement handicapés, d'aînés qui souffrent d'Alzheimer très avancé. Ce sont vraiment les gens les plus vulnérables du Québec qui se font couper leurs services présentement, dit Alison Green. De son côté, le directeur général du réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, EESAD, J. Benoît Caron, constate des diminutions d'achats de services par le réseau de la santé. Mais est-ce que c'est très important? Je n'ai aucun exemple qui me vient à l'esprit où on note des coupes significatives, dit-il. Selon la directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, certaines régions ont stoppé les coupes liées au chèque emploi-service après la lettre de M. Paré. Elle demeure toutefois inquiète pour les personnes âgées et handicapées. Une consigne claire, selon Santé Québec. Interpellée sur ces coupes, Santé Québec parle d'une consigne claire concernant le soutien à domicile. La prise en charge de nouvelles personnes doit se poursuivre et la révision du nombre d'heures doit se faire en tenant compte des besoins des patients d'abord, écrit-on dans un courriel. La Société d'État rappelle que le nombre d'heures varie selon les besoins et la situation de la personne. Par exemple, un jeune en vieillissant peut avoir moins de besoins. À l'inverse, une personne âgée peut voir ses besoins augmenter, précise-t-on. Ajuster le nombre d'heures est une bonne pratique, selon Santé Québec, notamment pour s'assurer que le plus de gens possible puissent bénéficier de cette aide précieuse. Nous sommes en contact avec différentes associations et nous pourrons corriger le tir aux besoins, ajoute la Société d'État, qui répète vouloir limiter le plus possible les impacts sur les services. Le privé estime être une solution. Une étude commandée par l'Association des soins à domicile du Québec estime que le gouvernement québécois pourrait économiser jusqu'à 182 millions de dollars dès aujourd'hui en établissant des partenariats avec des entreprises privées de soins à domicile et des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, EESAD. Cet argent permettrait d'offrir 2,2 millions d'heures de soins de plus et d'ainsi accompagner 14 000 Québécois supplémentaires. La porte-parole de l'association, Alison Green, soutient que faire affaire avec des entreprises de soins à domicile coûte la moitié du prix du réseau public, $38,25 par heure de soins contre $81,02. Le réseau de coopération des EESAD s'est dissocié de cette étude dans un communiqué publié récemment. Contrairement aux entreprises privées, les EESAD n'ont pas pour objectif la maximisation des profits, écrit-il. Le regroupement croit que ses membres doivent être reconnus comme le partenaire prioritaire du système de santé. Déménager faute de logement adapté. C'est un cri du cœur que je lance. Jacques Bisson souffre de paraplégie spastique héréditaire. Depuis 23 ans, il habite dans le même appartement à Saint-Jean-sur-Richelieu. À 62 ans, il craint d'être forcé de déménager en raison de la suspension temporaire d'un programme d'aide. « J'ai de gros problèmes aux épaules à cause de l'arthrose », explique Jacques Bisson, qui se déplace en fauteuil roulant manuel. « Je ne suis plus capable de monter la rampe d'accès pour me rendre à mon logement. » Jacques Bisson avait soumis une demande au Programme d'adaptation de domicile, PAD, de la Société d'habitation du Québec, SHQ, afin d'adoucir la pente de sa rampe d'accès et de réaménager la salle de bain de son appartement. Pour se laver à la douche téléphone dans la baignoire, l'homme doit faire 3 transferts. Un de son fauteuil vers la toilette, un autre de la toilette au rebord de la baignoire et finalement un dernier, du rebord à la baignoire. « C'est dangereux, dit-il. Je suis déjà tombé. Je me suis fait mal. » Sa demande avait été acceptée, indique-t-il, et les travaux devaient commencer l'été prochain. Mais ils n'auront pas lieu en raison de la suspension temporaire du PAD, a-t-il appris. C'est inacceptable, dit-il. Je vais être obligé de partir d'ici. Je vais essayer de me trouver un logement qui est au moins accessible, où je peux entrer sans obstacle. Budget à sec à la SHQ. La Société d'habitation du Québec indique que le programme d'adaptation de domicile a été interrompu le 22 novembre dernier pour une période indéterminée parce que le budget a tout été engagé. Cette suspension s'explique, entre autres, par le fait que malgré un budget initial en hausse par rapport aux années précédentes, nous avons vécu une augmentation du nombre de demandes d'aide financière pour l'adaptation de domicile de l'ordre de 15%, précise-t-on dans un courriel. La SHQ a reçu 2593 demandes en 2023-2024, soit une moyenne de 216 demandes par mois. Les années précédentes, cette moyenne était d'environ 170 demandes par mois, écrit-on. Pour l'année 2024-2025, avant l'interruption, cette moyenne atteignait près de 250 demandes par mois. La subvention maximale de base par bénéficiaire est passée de 16 000 $ à 50 000 $ depuis le printemps 2023, ajoute la société. Selon la SHQ, les gens qui formulent des demandes d'adaptation de domicile verront leur dossier traité dès qu'un nouveau financement pour le programme sera annoncé. Jacques Bisson se sent délaissé par le système. Ils ont tellement d'autres choses qu'ils pourraient couper avant de couper les gens qui sont vulnérables, déplore-t-il. Il n'a pas envie de quitter ses voisins, avec qui il a tissé des liens solides. « C'est comme ma police d'assurance », explique-t-il. S'il arrive quelque chose, ils sont toujours là. Comme son chien Mira, qui l'aide à se lever tous les matins. C'était « Victime des coupes », un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 30 janvier 2025 dans la presse.
Aire ouverte de Baie-Comeau, 2 ans au service des jeunes de 12 à 25 ans. Un texte de Carianne Nepton-Philippe paru le 28 janvier 2025 dans Le Haute-Côte-Nord. C'est une constante adaptation des services pour l'air ouverte qui a inauguré ses locaux à Baie-Comeau il y a 2 ans. Les jeunes de 12 à 25 ans sont mieux servis pour des besoins en santé mentale et sexuelle, mais il y a encore du travail à faire. Citation : Les problèmes de santé mentale apparaissent habituellement dans l'adolescence et ça se cristallise dans la période jeune adulte. Fin de citation, explique d'entrée de jeu Martin Thibault, chef responsable des aires ouvertes et foyers de groupe en santé mentale de la Côte-Nord. Citation : On chevauche le passage de l'âge mineur à l'âge adulte. Parfois, il y a des bris de service dans le passage à l'âge adulte. C'est une période critique. Fin de citation, ajoute-t-il. Rappelons qu'une aire ouverte a aussi ouvert ses portes à cette île en 2019. Celle à Baie-Comeau a vu le jour en 2022. L'objectif de départ avec ce projet, qui a été implanté un peu partout au Québec, était de créer une co-construction avec les partenaires, que ce soit au niveau des organismes communautaires, le CIS de la Côte-Nord, les milieux scolaires et les comités jeunesse. Selon M. Thibault, l'aire ouverte de Baie-Comeau réussit à se faire connaître depuis 2 ans et de plus en plus de jeunes s'y réfèrent. Citation : On est toujours en très bonne progression. Fin de citation, mentionne-t-il concernant l'augmentation de la clientèle. Pour approximativement la même période de temps, l'aire ouverte est passée de 37 usagers différents dans l'année 2022-2023 à 131 pour l'année en cours 2024-2025. L'anxiété est très présente. Les problématiques d'anxiété se hissent en haut de la liste pour la tranche d'âge qui consulte à l'air ouverte. Citation : C'est certain que l'anxiété, comme l'anxiété de performance, revient souvent au niveau santé mentale. Ellipse : C'est un des enjeux majeurs qui est travaillé avec les différentes intervenantes psychosociales. Fin de citation, explique Martin Thibault. Ce dernier ne peut passer à côté de la pandémie, qui a joué un grand rôle dans les troubles d'anxiété pour une génération qui a été grandement affectée par le confinement. Citation : La pandémie a un impact sur comment on doit adapter nos services aujourd'hui. On voit plus de problématiques liées à l'anxiété chez les 12 à 15 ans. Fin de citation, note-t-il. À Baie-Comeau, on remarque aussi des demandes en croissance pour les personnes immigrantes. Citation : C'est quelque chose qu'on a de plus en plus à Baie-Comeau. Beaucoup de personnes immigrantes, dans la tranche d'âge qu'on vise, qui demandent nos services. Fin de citation, indique le chef responsable. De plus, toutes les questions reliées à l'identité de genre sont à prendre en considération et à intégrer dans les services. Ne jamais arrêter de s'adapter. Ce qui ressort majoritairement du discours de M. Thibault sur la mission de l'aire ouverte comme service, c'est sa capacité à s'adapter aux besoins. Citation : L'aire ouverte d'aujourd'hui sera différente de l'aire ouverte en 2035. Il faut s'adapter avec les jeunes, il faut que ça évolue tout le temps. Fin de citation, déclare-t-il. Il ne faut jamais arrêter de s'ajuster avec ses besoins. Citation : L'aire ouverte ne sera pas figée dans le temps. Plein de choses vont changer pour les jeunes qu'on rejoint, donc il faut les suivre. Fin de citation, dit-il. Citation : On donne aussi un service différent. C'est une approche différente et nous sommes là pour orienter les jeunes aussi. Mais oui, c'est une autre approche. Il faut que ça le soit, sinon on va juste reproduire ce qui existe déjà. Fin de citation, lance l'interlocuteur. Prévenir et guérir. En plus de répondre aux besoins de la clientèle en consultation, un effort monstre est mis sur la sensibilisation et la prévention. Citation : On fait beaucoup de prévention, du démarchage et on a une unité mobile. On peut faire de la promotion dans divers événements, par exemple. Il y a une gamme d'activités que les intervenants sont appelés à faire. Fin de citation, fait savoir Martin Thibault. Le service va au-delà des suivis en clinique, rappelle-t-il. Citation : C'est vraiment de la co-construction d'un bout à l'autre, je vous dirais, du service. Toujours dans l'optique de ne jamais avoir de bris de service pour la clientèle adolescente et jeune adulte. Citation : On regarde aussi pour offrir des services un petit peu en périphérie aussi. Fin de citation, précise-t-il. Citation : Ceux qui connaissent maintenant le service ont de plus en plus le réflexe de l'utiliser. Nos partenaires nous réfèrent aux besoins et nous aussi, on fait la même chose. L'aire ouverte joue un rôle important pour essayer de combler des besoins. Fin de citation, souligne M. Thibault. C'était Aire ouverte de Baie-Comeau, 2 ans au service des jeunes de 12 à 25 ans. Un texte de Carianne Nepton-Philippe, paru le 28 janvier 2025 dans Le Haute-Côte-Nord.
Des enseignants plaident pour 2 bulletins par an. Le temps d'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves. Un texte de Dominique Plante, paru le 25 janvier 2025 dans TVA Nouvelles. Le temps consacré à l'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves du Québec, selon une forte majorité des membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSE-CSQ, qui privilégierait la réduction de 3 à 2 bulletins scolaires par année. Les enseignants restent peu satisfaits de leurs conditions de travail après avoir signé la nouvelle convention collective. Pour tenter de trouver une solution, la FSE-CSQ a concocté un sondage portant sur la question des évaluations. Une des conclusions est presque unanime. 89% des répondants préfèrent revenir à 2 bulletins par année, comme à l'époque de la COVID-19, au lieu de 3. De plus, environ 2 enseignants sur 3 ont affirmé que le temps consacré actuellement aux évaluations compromettrait l'apprentissage des élèves. Chez les professeurs du primaire, ce pourcentage augmente à 82%. Comment l'évaluation peut-elle nuire? Les examens en soi ne pénalisent pas les jeunes, mais ils peuvent freiner le processus de création du lien que les enseignants établissent avec leurs élèves, selon la vice-présidente du syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, CEJAT. C'est d'établir la routine de classe qui va nous permettre d'avoir de bons apprentissages tout au long de l'année scolaire, a expliqué Marie-Émilie Dessureau en entrevue à LCN samedi. Selon elle, les professeurs doivent se précipiter dans les examens dès la fin du mois d'octobre, ce qui serait trop tôt dans l'année scolaire. On perd vraiment en temps de qualité, a-t-elle ajouté. Ça veut dire qu'on se met à évaluer déjà à la mi-septembre, alors qu'on devrait être encore à créer des liens et à établir la routine et revenir sur les apprentissages. Les enfants à besoins particuliers. En ce qui concerne les enfants à besoins particuliers ou éprouvant des difficultés académiques, la vice-présidente précise que d'autres méthodes sont utilisées pour communiquer aux parents les observations et les soucis. Le bulletin, ce n'est qu'un seul des outils qui permettent d'assurer un suivi du parcours de l'élève, a souligné Mme Dessureau. Elle comprend tout de même les parents qui aurait certaines inquiétudes si le nombre de bulletins scolaires passait à 2 par année. Il y a toujours une rencontre en début d'année scolaire, a-t-elle tenu à dire. Ensuite, on a toujours une première communication qui est faite pour tous les élèves, où l'enseignant se prononce tant au niveau du comportement que du rendement académique. Au total, les professeurs soumettent 10 communications dans l'année scolaire, soit 1 document par mois, en plus de la rencontre avec les parents qui a lieu généralement en novembre, et les portails tels que Mosaïque comme autre outil de contact avec les adultes. Bien que la majorité des enseignants soient favorables à la réduction du nombre de bulletins, la décision revient en fin de compte au ministère de l'Éducation. On l'interpelle vraiment. Puis on lui dit, dans le fond, que ce que ça prend, c'est un dialogue avec tous les intervenants, a mentionné Marie-Émilie Dessureau. C'était. Des enseignants plaident pour 2 bulletins par an, le temps d'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves, un texte de Dominique Plante, paru le 25 janvier 2025 dans TVA Nouvelles. Thank you.
don inespéré de 100 000 $ pour Autisme Centre du Québec. Un texte paru le 30 janvier 2025 dans La Nouvelle Union. Autisme Centre du Québec annonce aujourd'hui, avec émotion et infinie reconnaissance, la réception d'un don à la hauteur de 100 000 $ de la part de nul autre que Réal Bélan. En septembre 2023, Autisme Centre du Québec a eu le privilège d'inviter ce grand humoriste lors des festivités pour souligner son 25e anniversaire. Ayant fait rire plus de 150 personnes à Sainte-Clotilde de Horton, M. Bélan a gardé l'organisme très près de son cœur. En effet, au printemps 2024, il a participé à l'émission « Le Tricheur », diffusée sur les ondes de TVA, et choisi Autisme Centre du Québec comme organisme pour recevoir les sous amassés lors de ce tournage. Ce sont 1 500 $ qui ont alors été remis. Autisme Centre du Québec éprouvait déjà une grande reconnaissance à l'égard de ce geste. Presque une année plus tard, ce sont 100 000 $ que Réal Bélan remet cette fois-ci à Autisme Centre du Québec. Après avoir livré une performance sans faille à l'émission « LOL qui rira le dernier », produite par Attraction et diffusée sur Prime Video, Réal Bélan a remporté 100 000 $ pour le compte d'un organisme. C'est avec émotion que l'équipe d'Autisme Centre du Québec a reçu cette nouvelle inespérée. L'argent permettra à l'organisme de faire l'embauche d'une quatrième ressource humaine à temps plein durant quelques années. Cette personne pourra soutenir les familles des MRC de Nicolas Yamaska, de Bécancourt et de l'Érable quant à leurs besoins en lien avec l'autisme. Autisme Centre du Québec est infiniment reconnaissant de toute la loyauté de Réal Bélan à son égard. Autisme Centre du Québec est un OBNL d'aide et d'entraide ayant pour mission de défendre les droits des personnes autistes et de promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour celles-ci et leurs familles. L'organisme offre des activités de sensibilisation dans les milieux, de l'accompagnement lors de rencontres importantes et des activités ponctuelles visant à briser l'isolement des personnes autistes, leurs parents et la fratrie. Il dessert l'ensemble du Centre du Québec et existe depuis plus de 25 ans. L'organisme dispose de 2 points de service, l'un se trouve à Drummondville et l'autre à Victoriaville. C'était un don inespéré de 100 000 $ pour Autisme Centre du Québec, un texte paru le 30 janvier 2025 dans La Nouvelle Union.